Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
C'est l'une des séries littéraires les plus lues au monde, un polar qui a relancé la mode des policiers scandinaves. Je veux bien sûr parler de Millennium, dont les 5 premiers tomes ont été vendus à 100 millions d'exemplaires. Un best-seller qui n'attendait plus que son 6e tome. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous invite à ouvrir les pages d'une œuvre qui a survécu à son auteur.
Merci d'être venu, Michael. C'est Harriet, Harriet Wenger, la fille de mon frère Gottfried.
Que lui est-il arrivé ?
Elle a purement et simplement disparu. Chaque année depuis, on m'envoie une fleur par la poste.
Avant d'être une série de films, Millennium, c'est un livre. Une trilogie dans un premier temps écrit par le Suédois Stieg Larsson et publié après sa mort. Un succès de librairie énorme et un coup de maître pour son éditeur en France, Actes Sud. Le boom des ventes est tel que la décision est prise de lancer une suite avec un nouvel auteur, David Lagercrantz.
Ce qui ne me tue pas, le 4e tome de la série de polar Millennium est sorti au terme d'une campagne de lancement savamment orchestrée. Une petite 50aine de fidèles étaient rassemblés devant une librairie du centre de Stockholm, ouverte pour l'occasion entre minuit et 1h du matin, pour acheter l'un des premiers exemplaires et le faire dédicacer par son auteur David Lagercrantz.
Et pour la rentrée de septembre, le 6e tome, La fille qui devait mourir, édité par Nordstedt, a envahi les rayons des librairies. Pour l'occasion, Isabelle Lesniak s'est rendue pour les Éco-Weekends sur les traces de Lisbeth Salander et de ses deux papas, l'ancien Stieg Larsson et le nouveau David Lagercrantz. Isabelle, d'abord, Millennium, c'est un énorme succès de librairie.
C'est donc une franchise qui a dépassé les 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Évidemment, il y a eu une très grande attention au moment de la trilogie initiale de Stieg Larsson, mais même depuis qu'elle a été reprise par David Lagercrantz, le succès ne se dément pas, y compris en France. Donc pour Actes Sud, ça reste dans les meilleures ventes. Et au total, donc grand format et poche confondues pour les 5 premiers, ça fait 5,4 millions d'exemplaires, rien que pour la France.
La sortie d'un livre comme La fille qui devait mourir, qui sera le 6e tome de la série, c'est un rendez-vous digne de la sortie d'un blockbuster au cinéma. Hein.
Oui, tout à fait, ça m'a fait sans penser aux sorties des Marvel ou des Disney, donc une sortie mondiale, 25 pays le même jour, une campagne de promotion démente, un embargo très strict à respecter jusque-là, pour évidemment que rien ne fuite. Alors, j'ai pas signé d'accord de non-dévoilement de la suite, même si l'auteur m'a raconté un peu ce qui allait se passer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très stratégique pour plein d'éditeurs dans le monde. Et donc, le plus grand secret et les procédures sont respectées à la lettre.
Mais justement, comment est-ce qu'ils font pour éviter que les bonnes feuilles commencent à sortir dans la presse et surtout sur Internet ?
Alors, David Lagercrantz s'est vu offrir un ordinateur de la part de son agente, un ordinateur spécial pour écrire donc les manuscrits du 4 et du 5 et maintenant du 6. Il n'était pas connecté à Internet, donc pour les recherches, c'est un peu compliqué puisqu'il devait faire sur son autre ordinateur. Il ne pouvait pas passer les chapitres par email, donc il devait les porter. Et il avait quelques clés USB, dont une qu'il avait confiée à son beau-père parce qu'il avait peur que, évidemment, son appartement puisse être détruit par les flammes, par une inondation. Et donc, il fallait en garder une clé précieuse USB à l'extérieur de là où il écrivait.
C'est toute une gymnastique et pas seulement intellectuelle, hein.
Isabelle, vous avez rencontré David Lagercrantz chez son éditeur. Comment ça s'est passé?
Alors, l'éditeur, donc, c'est la plus vieille maison d'édition suédoise. Ça date de 1823. C'est un endroit très spectaculaire, près de l'eau, sur une des petites îles. Donc, c'est comme un palais en briques rouges qui fait face à l'hôtel de ville. C'est encore très historique. Et donc, il m'a reçu chez l'éditrice qui avait découvert Stieg Larsson, à qui Stieg Larsson avait envoyé ses trois premiers manuscrits. Ben, c'est quelqu'un de très sympathique. Il s'est habitué à être une rockstar internationale et donc maintenant il fait la promo, il fait les photos avec beaucoup de bonne humeur. Il vient d'un milieu extrêmement intellectuel et aristocrate. Son père était un grand intellectuel et donc évidemment commencer à faire du commercial au début, ça lui a posé quelques cas de conscience et il n'était pas très fan de Millennium. Mais maintenant, évidemment, avec le succès, est venu aussi un statut assez à part d'écrivain best-seller. Et donc, il est tout à fait rompu à la promo et il le fait de manière très sympathique.
Oui, parce que ça, c'est intéressant. En fait, il a été choisi, alors pas par hasard, mais il n'était pas vraiment destiné pour remplacer Stieg Larsson.
Pas du tout. Lui, il a découvert Millennium plus tard que tout le monde. C'était pas du tout sa tasse de thé. À la maison, on lisait pas de polar. On lisait seulement des livres beaucoup plus intellectuels. Alors, s'il a été choisi, c'est parce que il venait d'écrire une biographie qui a eu beaucoup de succès en Suède de Zlatan Ibrahimovic, donc
le
joueur de foot. Et donc, il l'avait rencontré. On peut pas imaginer deux personnages a priori plus différents, mais il a quand même cette capacité, David Lagercrantz, à se mettre dans la peau de personnages qui ne lui ressemblent pas. Il avait fait aussi une biographie d'Alan Turing, le cryptologue britannique qui a été condamné pour son homosexualité. Il avait fait des biographies d'alpinistes. Enfin, il a quand même cette capacité à se mettre dans la tête des gens et à raconter des personnalités qui ne lui ressemblent pas. Et donc, finalement, pour reprendre l'histoire de Mikael Blomkvist, le journaliste star de Millennium qui lui ressemble un peu, et surtout celle de Lisbeth Salander qui est très 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 éloignée de son univers non geek, non féministe, tout de suite son agente et les gens de la maison d'édition ont pensé à lui à cause de ça en fait.
Oui, et ce personnage de Lisbeth Salander, il l'a fasciné tout de suite?
Oui, tout à fait. Et, il dit qu'il a lu assez tard les Millennium, mais il a découvert la scène donc, où Lisbeth tatoue quelque chose qui est très MeToo avant l'heure, sale porc sur le torse d'un homme. Ça l'a tellement marqué que du coup, il s'est dit « Bon, bah, évidemment, je ne peux pas refuser de continuer à la faire vivre, cette héroïne. » Et c'est vrai qu'aussi longtemps après, elle s'est imposée comme une référence très importante. Enfin, et Larsson avait été totalement visionnaire, d'une part pour l'aspect MeToo et la revanche d'une femme qui avait, sinon subi, du moins été témoin de violences familiales et des hommes, et puis pour le côté hacking qui n'était pas très développé au début de Millennium et qui maintenant, évidemment, est un sujet d'actualité quasi quotidien.
Millennium, ça a bouleversé sa vie?
Tout à fait, puisque bah, d'abord il est devenu riche, comme il dit. Donc il s'est acheté une île dans l'archipel près d'Helsinki, c'était la maison familiale, et donc il a rénové à grands frais. Enfin bon, maintenant il dit qu'il est quelqu'un de très connu, on l'arrête dans la rue. En plus, bon, il y a eu beaucoup de polémiques au tout début quand il a repris la franchise. Est-ce qu'on a le droit de confier à quelqu'un des personnages qui ont été inventés par un autre? Ça a fait vraiment... Enfin, il a été extrêmement critiqué par des écrivains même qui ont dit que jamais il n'aurait fait ça. Donc, il a été vraiment à la une des tabloïds. Il a dû répondre à des questions sur sa famille. Il fait des opérations de promotion internationales. La semaine de la sortie du 6, il fait un world tour comme une rockstar. Donc, il est un ou deux soirs par pays en répondant aux interviews. Donc, évidemment, sa vie a été bouleversée au-delà de ce qu'il pouvait imaginer par Millennium.
Mais c'est vrai que c'est une question intéressante. Une œuvre d'art, un personnage fictif, peut-il survivre à son créateur? On le voit beaucoup en BD, que ce soit Blake et Mortimer, maintenant avec... Alors, Uderzo n'est pas mort, mais également avec Astérix, il y a une seconde vie. Pour l'éditeur, Millennium, c'est c'était vraiment impensable d'abandonner après ces trois premiers livres.
Tout à fait. Donc il faut se souvenir que Larson meurt avant que les trois premiers soient parus. Donc et il n'y avait pas en plus de plan promo, enfin qui est le plan promo qui était imaginé à l'origine avec Larson et faire vivre les personnages par le biais de ce journaliste qui était un peu connu d'investigation, s'est tombé à l'eau avec sa crise cardiaque fatale. Donc on s'est demandé comment continuer. C'est finalement autant l'éditeur que la famille de Larson, le frère et le père, qui décident de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc par exemple, pas de produits dérivés, enfin ça, sur ça, ils sont intraitables. C'est eux qui vont décider si un jour il y aura un septième. Évidemment, on leur a soumis l'idée de Lagerkrantz, donc c'était vraiment à eux de décider. Je trouve qu'ils ont trouvé une façon très juste d'aborder le problème et la passation du flambeau. Sur les milléniums, dans la version française, il y a la notation d'après les personnages créés par Stieg Larsson. Et je trouve que c'est évidemment la meilleure manière de lui rendre hommage, tout en expliquant que des personnages, après, peuvent vivre sous la plume de quelqu'un d'autre. Ils ont leur propre vie, surtout quand ils sont aussi forts que Lisbeth.
Isabelle, ça a aussi changé la vie de l'éditeur Nordstedt?
Oui, alors l'éditeur, c'était par rapport à Actes Sud en France, qui n'avait pas l'habitude de publier de polars et qui a évidemment lancé une collection de noirs en même temps que Millennium, qui s'appelle Actes Noirs. Pour l'éditeur suédois, c'était moins une révolution, puisque eux aussi faisaient du Connelly, ils faisaient du Elizabeth George, à côté de choses beaucoup plus intellectuelles. Ce sont les éditeurs de Paul Auster, de Murakami, même de Ibsen, enfin. Donc, ils avaient cette variété dans leur catalogue. En revanche, évidemment, le succès planétaire les a mis sous le spotlight. Ils ont été extrêmement mis en avant. Et finalement, un épisode récent de la vie de cet éditeur a aussi été très étonnant. C'est qu'ils ont été rachetés, c'est ce vieil éditeur donc historique, par Storytel, qu'on connaît peu dans cette partie de l'Europe, mais qui est très fort en Scandinavie. Vie, c'est un pure player qui fait du livre audio. Et donc, il s'est intéressé évidemment à ce vieil éditeur historique parce que c'était l'éditeur de Millennium.
The Millennium effect on Stockholm. On the small scale, we can see that there are guided tours. You can buy a map and follow in the footsteps of the main characters in the films. But also, it affects tourism on the greater scale. If you look at the years 2009 till 2013, we expect that about 430 million kroner will be invested by tourists in Stockholm.
450 millions de couronnes suédoises, soit 42 millions d'euros de retombées pour la capitale suédoise, selon cette analyse de Oxford Research. Isabelle Lesniak s'est rendue sur l'île de Södermalm, où ont été tournées plusieurs adaptations au cinéma et à la télé de Millennium. C'est devenu un lieu touristique.
Il y a des tours qui sont organisés, donc des tours à pied, ça dure deux heures et c'est organisé par le musée du quartier avec des guides donc assermentés qui racontent la vie de Millennium dans les livres mais aussi beaucoup dans les films, avec plein d'anecdotes sur ce que faisait Daniel Craig, ce que faisait Rooney Mara, donc c'est extrêmement agréable. C'est vrai qu'il faut de l'imagination pour se rendre compte vraiment au-delà des murs qu'on voit, parce qu'on ne rentre pas dans les bâtiments. Donc il faut un peu d'imagination pour revivre l'histoire de Millennium. Les films y aident, puisqu'ils n'ont pas forcément été tout à fait tournés dans les lieux qui sont décrits dans le livre. Quelquefois, ils n'existaient pas. Ils sont le pur produit de l'imagination de Larsson, notamment le siège de la rédaction de Millennium ou l'appartement de Mikael Blomkvist. Mais c'est vrai que tout le monde se souvient plus des films encore que des livres, notamment les touristes américains, les touristes japonais. Et ça fait donc vivre aussi ce quartier qui est un des temples bobos du monde avec plein de petits cafés dans lesquels écrivait Larsson, plein de petits commerces qui dans le livre sont fréquentés par Lisbeth et Mikael Blomkvist. Donc c'est un endroit très agréable et une manière très agréable de faire revivre la série.
Il y a des petites anecdotes d'ailleurs. Comment est-ce qu'ils ont été reçus, ces stars, Daniel Craig notamment, quand ils allaient dans le quartier
Alors, il n'était pas forcément... Enfin, Daniel Craig était connu, mais David Fincher, qui est donc le réalisateur mythique, les Suédois ne connaissaient pas vraiment sa tête. Et donc, il n'a pas du tout eu un traitement VIP Hollywood. Il devait faire la queue pour entrer dans les restaurants les plus prisés du coin. Rooney Mara s'est même attiré pas mal de critiques parce que, en fait, dans Millennium, Lisbeth a plutôt une petite moto dans les films. Ça a devenu une super grosse moto qu'elle faisait ronronner la nuit et plus que ronronner sur un sol glissant pour pouvoir s'entraîner. Et donc, les voisins, après minuit, trouvaient que ça commençait à bien faire, même si ça donnait de la notoriété au quartier. Et donc, elle s'est fait rappeler à l'ordre.
Pour terminer, on parlait de Millennium, c'est donc un journal. Dans la vraie vie, c'est aussi un journal dont Stieg Larsson s'est inspiré. Qu'est-ce que ça a changé pour l'Expo ?
Alors, Expo, donc, c'est une revue d'investigation qui est très spécialisée sur les enquêtes sur le racisme, les mouvements d'extrême droite, très réputée dans son domaine. C'est une fondation aussi, et donc une partie des droits de Millennium va au journal. Notamment, le frère et le père de Stieg ont reversé les droits, l'intégralité de ce qui leur revient des droits d'auteur du 4e opus à Expo. Donc, ils ont vécu un peu mieux pendant quelques semaines, quelques mois. En réalité, ça a aussi eu un effet un petit peu pervers, c'est que les gens qui donnaient d'habitude pensaient qu'ils étaient très bien lotis et qu'ils ont arrêté de donner. Donc, finalement, c'était une ressource de revenus temporaire. Et maintenant, ils doivent retourner à leurs recettes habituelles, qui sont l'abonnement, qui sont des ateliers pédagogiques sur le terme de l'extrême droite qui font payer. Et puis, donc, les donations des particuliers.
La trilogie Millennium s'est vendue à 1 300 000 exemplaires en France rien qu'en 2008. Pour Actes Sud, c'est le jackpot. Le Figaro littéraire estimait qu'elle lui avait rapporté 30 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année-là. Et depuis, l'argent a continué de rentrer dans les caisses. Sur les conseils d'Isabelle, j'ai appelé Aigué Roel-Rousson, éditrice chez Actes Sud. Elle a aussi été traductrice des 4e et 5e épisodes. Je lui ai demandé de me raconter pourquoi Actes Sud avait craqué sur cette trilogie.
C'était du coup mon prédécesseur, Marc de Gouvenin, qui était responsable du domaine nordique à l'époque, chez Actes Sud. Donc moi, je n'étais pas encore arrivée au moment où il a craqué sur cette trilogie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, on était, c'était très, très rapidement, quoi, qu'il a procédé à l'acquisition des droits de Stieg Larsson. Donc, je pense qu'il a été vraiment très convaincu tout de suite. C'était un pari dans la mesure où on ne faisait pas de polar chez nous à l'époque. Donc, la collection Actes Noirs a commencé par la publication du premier tome de Millennium. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, c'était un vrai pari.
Il y a une culture du secret autour des manuscrits de Millennium. Isabelle en parlait. Vous avez été la traductrice de David Lagercrantz. C'était comment ?
On a tous signé des clauses de confidentialité en béton avec l'éditeur original, avec Norstedt. On n'a jamais reçu de fichier du texte pendant les préparatifs. C'est-à-dire qu'on a uniquement reçu une sortie papier par coursier du manuscrit et on n'avait pas le droit de le photocopier, on n'avait pas le droit d'envoyer quoi que ce soit par mail, évidemment. Ils ont eu des gros soucis quand même de tentatives de piratage et de hacking pour récupérer les manuscrits. Et encore avec le 6e tome, ça continue, quoi. Donc à chaque fois, ils sont quand même victimes de piratage et de phishing pour essayer de récupérer le manuscrit avant la sortie. Donc l'éditeur original, il a été très soucieux de la confidentialité du texte avant l'apparition, comme c'était un lancement mondial et que c'était un projet quand même important, il fallait absolument pas qu'il y ait des fuites. Donc les traducteurs, pareil, c'est vrai que le travail de traduction du coup devient beaucoup plus compliqué parce que pour s'assurer qu'il n'y a rien qui fuit, ben en fait moi je devais travailler sur deux ordinateurs différents, il y en avait une qui était pas connecté à Internet, sur lequel j'écrivais. Et puis un autre sur lequel je faisais mes recherches. Et voilà. Et quand je devais envoyer, parce qu'on était aussi sur un timing très très serré, vu qu'on faisait la publication en même temps que l'éditeur suédois, nous on a quand même le temps de la traduction, mais qui du coup était écourté de moitié. On avait 3 mois à peu près pour la traduction, alors qu'on compte en général 6 mois. Et en plus, on pouvait rien envoyer par mail. Donc à chaque fois qu'on avait, on procédait par bout. Donc, et à chaque fois, il fallait soit envoyer un clé USB par courrier coursier, soit venir directement au bureau, déposer la clé, pour tout évidemment fermé avec des mots de passe. C'est clair que c'était assez particulier comme mode de travail.
C'est assez rare qu'en littérature, on change d'auteur. C'était important de poursuivre l'histoire?
Oui, on a, pour nous, c'était important. C'est vrai que c'est pas nouveau dans la littérature quand ces personnages qui deviennent des icônes et où l'auteur est mort. Donc c'est pas nouveau, mais nous ça nous paraissait important parce qu'il y avait aussi une demande du côté des lecteurs de retrouver ces personnages, quoi, de surtout de Lisbeth Salander et puis également de Michael Blomqvist. Et c'est sûr que c'est toujours un pari de faire ça. Mais David Lagrange a quand même fait un travail réussi.
Est-ce que le changement d'auteur a eu un impact sur les ventes?
C'est trop tôt pour le dire, je pense, parce que ce qu'on observe, c'est aussi que du coup, Millennium, enfin le premier trilogie, trouve aussi de nouveaux lecteurs, des gens qui à l'époque, qui à 10 ans n'étaient pas encore des lecteurs de polar et qui retrouvent une nouvelle génération de lecteurs suite à la sortie des livres de Millennium. Donc ça, c'est un aspect aussi important. La trilogie, elle a pas été un succès immédiate. En fait, c'est juste avec la sortie du 3e tome que la série a vraiment décollé.
Stieg Larsson a en tout cas lancé l'engouement pour le polar venu du froid et il a suscité les vocations. En mars dernier, pour la 15e édition de Quai du Polar à Lyon, sur les 150 auteurs invités, 24 venaient de Scandinavie. Merci Isabelle Lesniak des Échos. Vous pouvez retrouver son reportage sur le site internet des Échos Weekend. Merci à Eguéroël Rousson d'Actes Sud qui a décidé de sortir Millennium 6 en livre audio également. La Story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean avec comme première lectrice et auditrice Michel Varnet. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur vos plateformes de téléchargement préférées. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.